Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre, Noël approche et on attaque donc la quatrième partie de cet abécédaire financier et on attaque directement dans le dur avec le cul comme qu'est-ce qui se passe si Macron se fait virer. Un des sujets de cette fin d'année, c'est la tentative de coup d'État mise en place par les Gilets jaunes. Personne ne sait d'où ça vient et eux ne savent pas vraiment où ils vont, mais une chose est certaine, ça fout un beau bordel en France. Et je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, mais sans aller passer son samedi sous les Champs-Élysées, ça devient même difficile d'accéder au moindre centre commercial le samedi. Dans la foulée, la croissance faiblarde française est encore plus en berne qu'avant et le gouvernement n'a pas été capable de montrer autre chose qu'une sinistre incompétence, ce qui est un grand classique du gouvernement français, historiquement parlant. Mais soyons honnêtes, depuis l'arrivée de Hollande et la montée fulgurante au pouvoir de l'imbécile heureux qui y est actuellement, ils sont définitivement devenus champions du monde. Personnellement, en tant que Suisse et Genevois, je ne suis pas forcément fier de notre gouvernement local, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, mais je dois dire que ce qui se passe en France est un cran au-dessus. Tant et si bien que l'autre jour, alors que j'étais collé dans un rond-point avec ma voiture Badger Investir.ch en train de me faire accuser d'évasion fiscale, j'ai commencé à me dire que Macron pourrait bien finalement se faire virer. Et que l'on vivait quand même une époque formidable si le peuple arrivait enfin à se secouer pour essayer de virer les imbéciles qui les dirigent mal depuis quelques années. Du coup, je me suis posé une question. Si Macron se fait jeter dehors avec son institutrice, qui va le remplacer ? Non, parce qu'en Suisse, ils sont 7, s'il y en a un qui claque, ça se remarquera même pas, surtout que l'on ne se souvient jamais comment il s'appelle, à moins qu'il se ridiculise sur YouTube ou en essayant de parler anglais après avoir pris 3 heures de cours chez Berlitz sur un vieux lecteur de cassette. Et encore, on ne se souvient jamais s'il y a plusieurs N dans Aman, et on ne sait jamais s'il y a une majuscule dans Parmelin ou pas. Et puis, aux States, on sait qu'ils ont un vice-président, alors on sait que si Trump se fait descendre ou qu'il démissionne, puisque c'est la rumeur du moment, il sera remplacé par un pantin le temps qu'on élise Hillary Clinton. Mais en France, il se passe quoi ? Je me suis donc rendu sur Wikipédia pour bien comprendre et j'ai appris qu'en cas d'impossibilité du président d'occuper sa fonction, soit parce que sa tête s'est détachée de son corps ou soit parce qu'il a préféré l'exil que d'être décapité, c'est le président du Sénat qui le remplace dans ses fonctions. Le président du Sénat, c'est Gérard Larcher. De ce côté-ci de la frontière, on ne sait pas trop qui c'est, mais après quelques recherches, disons que si vous vouliez tourner un film et que vous aviez besoin d'un acteur qui peut incarner un politicien corrompu, vous engageriez Gérard Larcher. Attention, je ne dis pas qu'il est corrompu, mais disons que comme c'était un proche de Charles Pasqua, de Chirac et de Balladur, et qu'en plus c'est un chasseur, on peut raisonnablement se poser des questions. Une chose est cependant certaine, il peut représenter la bouffe française à l'étranger. En revanche, impossible pour lui d'être l'image manger-bouger pour lutter contre la malbouffe. Toujours est-il que quand on voit par quoi pourrait être remplacé en cas de fuite Macron en cas de fuite à Monaco ou sur le yacht de Bolloré, on peut se demander si Larcher est la bonne alternative, surtout si c'est pour préparer les nouvelles élections en faveur de Marine Le Pen. Ensuite, il y a R comme rendement. L'année 2018 aura été l'année des rendements. Déjà en février, nous avions fait une poussée de fièvre à cause de la hausse des rendements du 10 ans américain. En ce temps-là, les intervenants avaient littéralement paniqué parce que le rendement frisait les 3%. Dès que nous sommes passés au-dessus des 3%, le feu de l'enfer nous est tombé dessus. À cet instant très précis, absolument tout le monde s'est dit que la bonne idée du moment, c'était de vendre toutes ses actions et d'acheter des obligations parce que franchement, 3% de rendement par année, sans risque, c'est quand même trop chouette par rapport à des perspectives utopiques sur des actions qui ne vendent que des trucs bizarres, que l'on ne comprend pas, des clouds, des smartphones, de la pub sur nos photos de vacances et nos tests pour savoir que ce que l'on aurait sur notre casier judiciaire si l'on en avait un, et où et quel animal imaginaire nous serions si ça existait. Du coup, il y a eu comme un mouvement de foule, le genre de mouvement de foule que l'on n'aime pas voir, celui où tout le monde se rue à la sortie du stade quand il n'y a pas la place. Ce genre de théorie financière m'a toujours fait rigoler. Un matin, on est à 2,99% de rendement et tout va bien. On achète de l'Amazon, du Nvidia, du Netflix parce que tout ça est une révolution et on fait déjà des calculs de combien on aura sur le compte si on fait 3 fois dans l'année. Et le soir même, le 10 ans US passe à 3% et tout à coup, c'est la panique. D'un instant à l'autre, Amazon, c'est nul, Netflix, c'est has-been, l'intelligence artificielle, ça n'a pas d'avenir, et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est comme les dates de péremption sur les boîtes de conserve. Le 31 décembre à minuit, tu peux manger ton cassoulet en boîte, mais le 1er janvier, à minuit une, si tu manges une cuisse de canard confit, tu meurs instantanément dans d'atroces souffrances. La bourse, c'est pareil. Par contre, quand 4 mois plus tard, on repasse en dessous des 3%, tout le monde s'en fout. Ce dont on ne se fout pas, c'est quand on se rend compte compte en décembre que le rendement du 10 ans baisse et que celui du 2 ans monte et que la courbe s'inverse et hop, remouvement de foule vers la sortie. Moi, je vous le dis, cette année, le marché aura eu la constance d'une classe d'école enfantine et ce qui me fait le plus peur, c'est que c'est sûrement pas fini. Je crois qu'il est urgent de s'acheter des boules caisses, de prendre du recul et de moins écouter le bruit des marchés. Surtout qu'avec l'avènement des smartphones, du concept de l'hyperinformation et de celui de vouloir devenir riche en 3 minutes, on ne s'en sort pas. Et puis moi, ce que j'ai compris, c'est que quand le 10 ans monte, on n'est pas content et on a peur. Et quand le 10 ans baisse, on a peur aussi et on n'est pas content non plus. Si on pouvait trouver un rendement où tout le monde est content, ça serait pas mal. En 2019, je me mets donc à la méditation et à la relaxation. Est-ce comme semi-conducteur, mais aussi comme Sylogica. Depuis que je fais de la finance, enfin si on peut appeler ça comme ça, j'ai appris qu'il y avait un cycle dans le secteur des semi-conducteurs, que par moments on se les arrache et qu'à d'autres plus personne n'en veut. C'est des fois des symptômes de bonne ou de mauvaise santé de l'économie. On regarde souvent le graphique du secteur aux USA, le SOX de son nom de scène, et depuis des années, il ne faisait plus que monter. Alors on a commencé à se dire qu'avec l'obsolescence programmée de certains produits et la rapidité avec laquelle de nouveaux produits technologiques sortent sur le marché, sans compter le fait qu'il n'y a plus un seul produit qui se vend sans semi-conducteur à l'intérieur, sauf les légumes, et encore, j'en suis pas certain, on avait commencé à se dire que l'on avait trouvé la formule magique de la croissance permanente. Depuis cet automne, on sait que ça ne fonctionne plus aussi bien. Il y a sûrement eu des exagérations à la hausse, tout comme il y en a à la baisse actuellement, mais aujourd'hui, avoir des semi-conducteurs parce que le cycle ne meurt jamais n'est plus une théorie valide. Et puis il y a aussi S comme Sylogica. En 2018, j'ai rencontré Mark Williams. Mark Williams, c'est le fondateur de l'association Sylogica, qui a pour but de fournir des rabais flottes à tous les professionnels de la finance. Que vous soyez employé de banque, gérant indépendant, asset manager, que vous soyez dans le domaine des commodities, de la comptabilité, de la fiduciaire ou de l'assurance, vous avez droit à ces rabais. En gros, si vous avez une calculatrice sur le bureau, ça vous suffit. Et en devenant membre Sylogica gratuitement, aujourd'hui, vous renforcez la communauté et vous permettez à l'association d'aller négocier des rabais pour l'achat de votre prochaine voiture. Que vous l'achetez dans 2 mois ou dans 5 ans, ça ne change rien. Vous êtes membre et votre inscription permet à Sylogica de travailler en amont pour vous offrir des avantages. Avantages qui sont conséquents puisque sur une voiture neuve, vous pouvez obtenir jusqu'à 35% de rabais. Toutes les marques ne sont pas présentes encore, mais si vous devenez membre Sylogica, Sylogica obtiendra les rabais pour vous. Si un jour vous achetez une voiture neuve, il ne vous en coûtera que 600 francs pour obtenir votre certificat de membre, certificat qui vous permettra d'obtenir votre rabais. L'association m'a proposé la place de chairman au début du mois de novembre et depuis l'aventure continue, je me réjouis déjà d'en faire plus encore et encore en 2019. Mais pour ça, il faut en parler autour de vous, en parler dans vos banques avec vos collègues, c'est en se mettant ensemble qu'on sera plus fort. Et puis entre nous, qui n'a pas envie de s'acheter une Mercedes ou une Audi dernier modèle en la payant 30% moins cher ? T comme Trump, mais aussi comme Twitter. Tout comme l'an dernier, le président américain aura été la pièce centrale du monde de la finance. On n'a pratiquement rien pu défaire ou faire sans que Trump soit mêlé à l'histoire. Son hyperactivité sur Twitter nous aura largement gratifié des plus beaux swings de l'année et mon petit doigt me dit que c'est pas terminé. Il nous aura fait flipper avec Kim Jong-un dans les deux sens, il nous aura chauffé sur le pétrole en disant que c'était trop cher au moment où tout le monde affichait les objectifs débiles. Merci à Pierre Endurant pour nous avoir annoncé que c'était pas impossible que le baril ait à 300$. Magnifique signal de vente, il y en a encore d'autres qui se sont gargarisés sur le coup, sur du pétrole à 100$ pour Noël. On les entend beaucoup moins sur les réseaux sociaux, et si ce n'est pour donner des leçons. Mais peu importe, Trump avait raison, à 75$, le pétrole, c'était trop cher. Après, le président s'est mis à la guerre économique, et là encore, c'était en haut, en bas, à droite et à gauche. On s'est fait balader dans tous les sens, et on se chauffe déjà pour l'an prochain. Mais il y a eu les élections de mi-mandat, la guerre économique, Powell, les taux, la guerre économique, les tarifs douaniers, Stormy Daniels, ces casseroles juridiques qui rendraient presque jaloux le Sénat français. Bref, il n'a pas arrêté de l'année. On peut même se demander s'il n'est pas fatigué. D'ailleurs, selon les dernières rumeurs en date, il serait sur le point de striker un deal avec un juge pour qu'il lui foute la paix en échange de sa démission. Selon les experts à Washington, ça serait une question de semaine pour qu'il donne son sac. Je précise que les experts à Washington, ce ne sont pas les mêmes qui ont prévu le baril à 100$ à Noël. Ils ne sont pas forcément meilleurs, mais ce ne sont pas les mêmes quand même. Toujours dit que si Trump s'en allait, non seulement on ne sait même pas écrire le nom de son successeur, mais en plus j'ai peur que l'on s'ennuie et que je ne sache plus quoi écrire dans ma chronique matinale. U comme un algo, c'est bien, un algo mort, c'est mieux. Les derniers chiffres font état du fait qu'entre 60% et 70% du volume du New York Stock Exchange est généré par du trading algorithmique. Comprenez que plus de 2/3 des échanges, ce sont des ordinateurs qui le font. Ces derniers sont calibrés pour réagir en fonction de certains seuils de volatilité ou de rendement ou de volume, voire même sur le nombre de canards colverts qui ont vu le jour dans le lac de Central Park cette année. C'est un peu selon le bon plaisir de leur maître fondateur et rédacteur d'algorithme, de l'algorithme auquel le système obéit. Il suffit donc que l'on décide que si la volatilité franchit les 25%, on déclenche des ventes pour réduire l'exposition des portefeuilles de 10% et le marché se fait défoncer. Un peu à l'image de ce qui s'est passé en février. Ça peut paraître sympa de confier le boulot à nos ordinateurs, mais historiquement ça finit toujours mal et cette fois n'y fera pas exception. On peut me dire ce qu'on veut, cette nouvelle façon de faire de l'argent va nous péter à la figure un jour ou l'autre. C'est une absolue certitude et ce jour-là on dira « Ah bon, on l'avait pas vu venir !» Mais si, tu l'as vu venir, abruti, t'as juste pas voulu sortir la tête du sable parce que tu croyais que t'avais enfin trouvé la formule magique pour gagner à tous les coups. Quand est-ce que les gens vont comprendre que la bourse, ça reste un gigantesque casino et qu'il faut arrêter de croire qu'il y a un moyen, un jour, de ne jamais perdre? On peut améliorer les choses en appliquant certaines techniques de base, mais ce n'est pas en confiant l'avenir de la finance à des ordinateurs binaires qui vont forcément disjoncter à un moment que ça va fonctionner. D'ailleurs, c'est incroyable! Combien nous sommes cons de croire encore à ces fables de La Fontaine? Personne n'a vu Wargames et les 12 Terminators! Bref, vivement que tout ça nous explose à la figure et qu'on comprenne bien que ça ne sert à rien, mis à part à pourrir le marché. C'est quand même vachement mieux quand l'humain réfléchit. C'est plus fatigant, je le conçois, mais c'est mieux. Voilà, excellente journée à tous et à demain pour la suite et la fin de cet abécédaire et de cette année 2018.